Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, à l'occasion de la Coupe du Monde Football en Russie, Affaires Sensibles vous propose de réécouter l'histoire d'un soir, un moment très particulier, qu'on appelle communément Séville 82. Nous sommes en Espagne en 1982, donc, demi-finale contre l'Allemagne, la défaite la plus célèbre, la plus douloureuse de l'histoire du football français. Séville 82, c'est le souvenir encore vif d'une immense tristesse, d'une infinie frustration et de regrets éternels. Devant l'Allemagne, une équipe qu'on aimait détester tant elle a brisé nos rêves, battant souvent sans la manière les plus belles équipes, les Verts de Saint-Etienne, les Hollandais magiques de la Coupe du Monde 74 et cette équipe de France de Platini, les Brésiliens d'Europe, un triptyque du bonheur dont les Allemands nous ont privés. Les Seppmayer, Horst Rubesch et Karl-Heinz Rummenigge ont terrassé le talent si grand et si fragile de Johan Cruyff, Osvaldo Piazza ou Michel Platini. Ce réalisme a fait dire un jour au footballeur britannique Lineker, le football est un jeu qui se joue à 22 pendant une heure et demie et à la fin ce sont les Allemands qui gagnent. En finale, en 82, l'Italie sautillante des Rossi, Conte et Gentile mettra aux Allemands la correction méritée. Ce n'est pas à Bonn qui aura séjourné cette Coupe du Monde 82, mais à Rome. Notre invité aujourd'hui, Eric Nolot, auteur du livre « Quand la coupe déborde » chez Stock, un ouvrage qui vient de paraître et qui marie football et littérature un vrai plaisir de lecture. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne, Jérôme Chélius et Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Dans moins d'une heure, tout ce que la France compte, de vrais amateurs, de footballeurs en chambre et de patriotes du ballon rond, autrement dit, une bonne partie d'entre nous, seront agglutinés devant leur téléviseur branché sur Antenne 2.
Platini, Trésor, Tigana, Giresse, oh là là, extraordinaire.
J'espère que ce n'est pas signe du destin.
Non, j'espère aussi.
Ce n'est pas fini.
Il faut tenir 15 minutes. Ah, j'ai rarement vécu une fin de match comme ça, Jean-Michel, je vous le cache pas. Hein. Extraordinaire, dénouement ici à Séville.
Après la gloire de 1958, Copa, Fontaine, puis Anthony en demi-finale de la Coupe du Monde en Suède, le football français a connu une très longue traversée du désert, allant de défaites en défaites et se privant presque à chaque fois de participer aux grandes compétitions internationales, incapable de se qualifier, jusqu'à ce jour de mars 1976. Le 17 mars 1976, les Verts de Saint-Etienne éliminent l'ogre de la compétition. Cette année-là, le Dynamo Kiev, emmené par le joueur le plus rapide des terrains à l'époque, Oleg Blokhin. Un exploit retentissant qui emmènera les Verts jusqu'en finale à Glasgow contre le Bayern de Munich, qui décrochera une toute petite victoire sur un pauvre coup franc tiré en force par un certain Franz Rothe, les Allemands déjà. Mais une voie était ouverte. Les joueurs de Saint-Etienne venaient de vaincre le Cygne indien. Ils venaient de prouver qu'une équipe française pouvait se hisser au plus haut, aller jusqu'en finale de la plus grande des Coupes d'Europe, celle des clubs champions, comme on disait ces années-là. Saint-Etienne devient alors la Florence du football français. C'est là que s'écrit sa renaissance. Ce sont les Verts qui vont redonner des couleurs au bleu. D'ailleurs, et fort logiquement, avec cette ossature stéphanoise, Michel Hidalgo, sélectionneur inspiré, monte son équipe. Il y adjoint quelques footballeurs venus d'autres clubs, à la tête desquels celui qui allait devenir et qui reste à ce jour le plus grand joueur de l'histoire du foot français, Michel Platini, le gamin de Nancy. Cette équipe-là se qualifie pour la Coupe du Monde 78 en Argentine. Pouf, un galop d'essai pour les Bleus, éliminés dès le premier tour, mais on sent qu'ils nous réservent des lendemains qui chantent. Ils arriveront 4 ans plus tard, en Espagne, pour la Coupe du Monde 82. Giresse, Trésor, Rocheteau, Janvion, Genghini, Platini, la voilà l'équipe brillante. Qui pourtant rate son premier match contre l'Angleterre, mais enchaîne par une victoire 4-1 contre le Koweït, résiste contre la Tchécoslovaquie, bat l'Autriche et triomphe contre l'Irlande du Nord. Pour la première fois depuis 1958, la France atteint les demi-finales de la Coupe du Monde. Ce sera contre l'Allemagne, la RFA à l'époque. deux titres de champion du monde au compteur, mais elle aussi rate son entrée. À la surprise générale, l'équipe algérienne la bat, 2-1. Au troisième match, il lui est indispensable de battre l'Autriche. Alors elle marque une fois juste un but qui lui permet de finir en tête du groupe et d'offrir une place pour le second tour à l'adversaire du soir, l'Autriche. Match odieux, probablement arrangé entre les deux équipes germanophones. Quoi qu'il en soit, la RFA atteint la demi-finale en battant l'Espagne 2-1. Elle est prête pour défier la France. Tout le monde souhaite la défaite de cette équipe de RFA, antipathique, tricheuse, voire insupportable, sauf pour les spectateurs et supporters allemands, ce qui se comprend.
Pierre Draxuc, vous êtes parmi les consommateurs qui attendent le football. Y a-t-il déjà de l'ambiance dans la salle ?
En effet, Jean-Pierre, je suis dans un de ces bars de Montparnasse, un des bars qui en France retransmet ce match. Et déjà, bon nombre de téléspectateurs sont présents. Monsieur, vous êtes-vous un supporter ? Vous assistez à tous les matchs ?
Absolument, tous les matchs où je peux assister, j'y assiste.
Depuis le début de la Coupe du Monde ?
Oui, depuis le début de la Coupe du Monde.
Que va faire la France ce soir ?
Ah ben j'espère qu'elle va gagner, bien sûr.
8 juillet 1982, Séville, soleil de plomb, odeur de jasmin. Dans les rues, il reste encore quelques supporters brésiliens qui n'en reviennent toujours pas d'avoir été éliminés par les Italiens, superbes. Désormais, la ville accueille les supporters français et allemands. Les joueurs, eux, se préparent. Platini a bien saisi la dimension de l'enjeu.
On a du mal à se rendre compte qu'on est en demi-finale de la Coupe du Monde. Alors on l'abordera comme un match exceptionnel, puisque c'est un match exceptionnel de rencontrer les Allemands. Mais c'est pas parce qu'on est en demi-finale de la Coupe du Monde qu'on va avoir peur ou qu'on va penser à autre chose.
Et est-ce qu'on pense à plus loin ? Est-ce qu'on pense à la finale maintenant, quand on est en demi-finale ?
Je crois qu'on se dit surtout, il y a les Allemands, les Polonais, les Italiens et les Français. On a battu les Allemands, on a battu les Italiens, on a battu les Polonais en quelques années, donc on croit... On rêve de les battre, mais se dire que c'est demi-finale et la finale de la Coupe du Monde, ça, moi j'ai du mal à le mettre dans la tête. Mais je pense que les Allemands sont favoris. Et en principe, on aurait 40% de chances de gagner contre les Allemands. Je crois qu'ils sont favoris et à nous à créer la surprise encore une fois.
Dans la presse, même son cloche, on met en avant la force allemande face à la technique française. Une opposition de style, tout ce qu'on aime dans le sport. En fin de journée, pendant que le stade Ramon Sanchez Pizjuan se remplit peu à peu en France, les rues se vident. Chez soi, dans son canapé ou dans un bar, avec des amis, on s'installe devant le poste de télévision. Le foot n'a pas son pareil pour planter ce genre de décor. On s'ennuie souvent en regardant un match, car les phases actives du jeu ne sont pas légion finalement. Mais quand le match est grand, quand il nous fait vibrer, le foot reste le plus grand spectacle en ce bas monde, le plus fédérateur en tout cas. 20h55, Français et Allemands entrent sur le terrain. ...70 000 supporters dans le stade et des millions de téléspectateurs devant leur télé. C'est ça la Coupe du Monde de football, l'événement sportif numéro 1 avant même les JO. Au micro, pour les commentaires et pour Antenne 2, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, bien sûr.
Une équipe de France à 90 minutes du bonheur, car il est bien évident que si les tricolores de Michel Platini réussissaient à se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde, eh bien ils réussiraient là un exploit qui n'a jamais été fait par une équipe dans le football français. Coup d'envoi donné par les Allemands et première interception de Tigana. Tigana qui court sur ce ballon, poursuivi par Magat, donne derrière à Marius Trésor. Platini et ballon mis en touche par Alain Giresse.
Voilà, le match est lancé, mais l'enjeu semble tétaniser les Bleus. 5 minutes sans vraiment toucher le ballon, à observer la stratégie allemande. Les gestes sont approximatifs, on a du mal à trouver le tempo. On observe les réactions sur le banc des deux sélections. L'équipe technique et les remplaçants sont comme enterrés, blottis dans une espèce de fosse. On ne voit que leur tête et pour l'instant ils font la tête. À la 15e minute, nouvelle faute des Français, nouvelle occasion pour l'Allemagne.
Et nouvelle faute. Et alors là, un coup franc extrêmement dangereux pour Jean-Luc Ettori, puisqu'il se situe à 20 mètres. 20 mètres face au but, tir de Lindbergh, la barre ! La barre qui sauve l'équipe de France sur ce coup franc.
Mais la transversale vient de sauver les Français. 3 minutes plus tard, Jean-Luc Ettori, le gardien de but, est de nouveau sous le feu des attaques allemandes.
Breitner.
Il a fait la différence, Breitner.
Attention, Fischer. Oui, belle sortie de Jean-Luc Ettori, mais but quand même de Lindbergh qui récupère le ballon sur cette sortie de Jean-Luc Ettori. L'Allemagne ouvre le score à la 18e minute de la partie.
L'Allemagne marque grâce au milieu du FC Cologne, Pierre Littbarski. Aïe. Mais bon, il reste encore du temps. Surtout, ne pas se précipiter. Peu à peu, les Français jouent mieux. Rocheteau, compensé handicapé depuis le dernier match, semble bien en jambe. Il affole les Allemands par ses sprints et ses dribbles. Platini, quant à lui, déroule. C'est le capitaine, le métronome de l'équipe de France. Il dévie, accélère, libère les espaces et délivre à ses coéquipiers des passes lointaines, de 30 mètres quelquefois, d'une précision diabolique. Et soudain, à la 27e minute, sur les ondes de France Inter, Jacques Vendroux s'écrie.
Un pénalty pour la France, car Rocheteau a été accroché par Porter. Pénalty pour l'équipe de France. Sur ce coup franc donné par Giresse, la balle est arrivée sur la tête de Rocheteau, qui a été bousculée par Foster. Occasion unique donc pour l'équipe de France de revenir au score. Platini, le capitaine français, qui va tirer ce pénalty qui est face au gardien allemand, Harald Schumacher. Platini qui s'élance, qui frappe et qui marque. But !
C'est le 22e but de Platini en équipe de France, mais celui-là est peut-être le plus important. Un partout à la mi-temps, tout est encore possible. En France, c'est le soulagement. L'écart annoncé entre les deux formations n'a rien d'évident, pour l'instant. À Séville, dans les vestiaires étroits du stade, quelques sourires s'échangent, heureux d'avoir résisté à l'armada allemande. Michel Hidalgo félicite ses joueurs, recadre certains d'entre eux, mais fidèle à son style papagato, il câline, encourage, sympa Hidalgo. Bernard Gianghini, l'un des milieux de terrain, semble blessé suite à un mauvais coup lors d'un choc avec Uli Stielike. Hidalgo parle à Patrick Battiston, lui aussi va entrer dans l'arène. En attendant le retour des joueurs, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet font le bilan de la première mi-temps.
Eh bien oui, nous voici de retour au stade Sanchez-Pitouane où les joueurs n'ont pas encore regagné la pelouse pour cette deuxième mi-temps. Eh bien malin, qui pourrait dire Jean-Michel ce qui va se passer au cours de la deuxième mi-temps.
Bien malin, effectivement, car cette partie a été spectaculaire, a été équilibrée. Les Français ont parfaitement joué leur rôle d'outsider. Je pense que sur ce que l'on a vu depuis le début du tournoi et depuis le début de ce match, ils ont tous les atouts dans leurs pieds.
À la 51e minute de la deuxième mi-temps, Gianghini cède sa place à Battiston. 6 minutes plus tard, Bossis récupère le ballon, le transmet à Platini, qui l'envoie d'une transversale lumineuse, encore une, à Battiston, lancé à vive allure, caviar, comme disent les footballeurs.
De Platini pour Battiston.
À côté.
Aïe, 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 c'est pas vrai.
Et encore une fois, Schumacher.
Il a pas fait le voyage.
Non, regardez où il va mettre son pied, Schumacher. Regardez. Voilà.
Ah oui.
Alors, une fois, ça va, mais ça échappe chaque fois à M. Corner. Monsieur Corner, sorti le lot de responsabilité, il a été impuni pendant 45 minutes. Il continue.
Oui.
Alors que les Français ont déjà utilisé un joueur et que Battiston est bien sonné pour le compte.
Oui, oui.
Le choc. Des images lointaines où l'on voit Battiston à terre, le poing serré, tremblant, quittant ses amis. C'est grave. Il est dans le coma. Ses amis voient ses yeux révulsés, il est pris de convulsions. Schumacher, qui se croit à la guerre, est venu me percuter de plein fouet le visage de Battiston avec sa hanche à plus de 1,50 m du sol. Les équipiers entourent le joueur français et demandent les secours. Michel Platini panique, pendant que Schumacher et son épouvantable arrogance attendent tranquillement, balle au pied, qu'on évacue leur victime. On se souvient tous du geste de Platini quand Battiston est transporté en civière. L'un de ses bras tombe comme une feuille morte. Le capitaine de l'équipe, son grand copain, lui prend la main et l'accompagne jusqu'en dehors du terrain. Alors la colère, l'indignation, le dégoût nous envahit contre Schumacher et contre Charles Corver, l'arbitre qui n'a pas levé le petit doigt. Même le très politiquement correct Jean-Michel Larquet sort de ses gonds.
Eh oui, que voulez-vous, monsieur Corver ? Honte à vous ! Inadmissible, oui. Car quand on est à 10 mètres de l'action, on ne peut pas se laisser abuser par ce genre de geste.
Oui, et d'autant que ça se voit quand même. Très vilain geste, en tout cas, de Schumacher, et très mauvais arbitrage, je n'ai pas peur de le dire, de M. Corver.
Mais
quand on ne veut pas voir les fautes, on ne les voit pas.
Il vient dans le cirage, Patrick Battiston.
Une mâchoire fracturée, 3 dents, au moins une vertèbre endommagée, mais aucune sanction contre le portier allemand, rien. C'est Christian Lopez qui remplace Battiston, le match continue. Il vient d'entrer dans l'histoire et ce n'est pas fini. Les Français relèvent la tête, peu à peu. Les deux équipes s'offrent des occasions de but, mais la marque n'a pas changé, toujours un partout. Il reste à peine 1 minute dans le temps réglementaire.
Tigana, Gires, Platini, Amoros, tire.
Oh,
la barre! La barre! Aïe, 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 c'est pas possible!
Oh, alors quelle frappe d'Amoros! Ah, ça, on peut pas dire que les Français soient payés.
Ah, c'est tombé pas
par
vrai,
la transversale,
ça.
À 30 secondes de la fin, c'était le but capital.
Ah oui.
J'espère que ce n'est pas un signe du destin.
Non, non, j'espère aussi.
La frappe de l'intérieur du pied de Manuel Amoros est magnifique, mais en vain. Retour au vestiaire, le ticket pour la finale se jouera dans les prolongations.
Tu me jettes, tu me quittes, pas de quoi se jeter d'une tour. Après tout, ça m'évite d'avoir à te jeter un jour. J'ai porté des poids plus lourds, j'ai eu des astres plus désastreux. Des deuils et des crashs d'amour, des instants plus douloureux. Comme France-Allemagne 82. France-Allemagne 82. Tu me balances, tu me laisses, pas de quoi faire une histoire. Je vais tourner le dos à la finesse, manger comme un homme et puis boire. Je n'aurai plus à m'émouvoir sur tes expos d'artistes bulgares. Tes films qui font pleurer les yeux, encore plus tristes que France-Allemagne 82. France-Allemagne 82. France-Allemagne 82. Si tu veux me coucher sur une civière, tu peux me faire une Schumacher, je me tordrai pas de douleur. Tu peux bien me casser en deux, après la pluie vient le ciel bleu. Après la pluie vient le ciel bleu. Et après France-Allemagne 82, vient Roland-Garros 83.
Séville 82, les prolongations commencent. Dès le coup de sifflet, le match s'emballe. 93e minute, coup franc pour la France. C'est Jacques Vendroux qui nous raconte la suite.
Un coup franc qui va être tiré par Alain Giresse sur le côté gauche du gardien Schumacher. Le ballon s'élève pendant la surface de réparation. Marius Trésor et qui meurt. Reprise de volée de Marius Trésor qui meurt. Reprise de volée de Marius Trésor qui marque un but absolument extraordinaire. Tout à fait remarquable à l'actif de l'équipe de France et Marius Trésor. Un but d'anthologie, croyez-moi, des Français qui mènent 2-1.
Marius Trésor, 32 ans, une élégance rare, un vétéran de l'équipe de France. Depuis le début de la compétition, le libéro tricolore est au sommet, impeccable en défense. Il multiplie les montées offensives, apporte le surnombre dans la surface. À la 93e minute, il marque sans doute l'un des plus beaux buts des Bleus dans cette compétition. Une reprise de volée somptueuse, la position du corps est parfaite, c'est une chorégraphie. À Séville, le stade est debout, ce n'est plus du football, c'est de l'art. En France, c'est la liesse. Et comble du bonheur, 7 minutes plus tard, c'est un autre Bordelais, Alain Giresse, qui marque fabuleux.
Rocheteau, face à Foster, Platini, Platini, Dick.
En retrait pour Giresse, en retrait pour Giresse.
Il n'a pas vu.
Voilà, oui, oui, oui.
Oui, oui, oui. Giresse qui marque le troisième but. sur ce centre en retrait. Saint-Didier 6, 3-1, 9e minute de la prolongation. Et les Français qui sont pratiquement en finale de la Coupe du Monde. Extraordinaire dénouement ici à Séville.
Alain Giresse, ce soir-là, c'est lui qui amène la France sur une route encore inconnue, celle d'une finale de la Coupe du Monde. 3-1 à 20 minutes de la fin, l'affaire est dans la poche, extatique. Dans les salles de rédaction, on cherche déjà les titres pour la une du lendemain et on va fouiller dans le dictionnaire des superlatifs. L'arrogance allemande est terrassée, l'agression contre Schumacher est vengée. Ce soir, le football est moral. Malheureusement, il oubliera d'être mental. Enfin, les Français oublieront cette dimension. Car enfin, que se passe-t-il après le but de Giresse? La fatigue? L'euphorie? La déconcentration? Côté allemand, on joue la carte Rummenigge, le Karl du Bayern de Munich, meilleur joueur allemand du moment. Incertain, il entre enfin sur le terrain et à la 102e minute, il marque.
Spielke. Wunderbares Durchspiel, Littbarski, geh doch, Rummenigge, und da ist es! Da ist es!
2-3-1 pour la France, on passe à 3-2. Quelques minutes plus tard, Horst-Rubesch saute haut, trop haut pour la défense française. Rabat sur Fischer, qui marque grâce à un retourné acrobatique à 3-3. Tout est à recommencer.
Littbarski, une gute flanke. Und der Fallrückzieher, und das Tor! 3-3.
Mais que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé que les Français virevoltants, amoureux du beau jeu qu'ils pratiquent par réflexe, ont oublié quelques fondamentaux du football. À 3-1 et à quelques minutes de la fin d'un match si important, on doit fermer le jeu, balancer des grandes balles en avant, n'importe où de préférence, pourvu qu'on gagne du temps, enfin c'est ce qu'on dit. Et puis les Bleus avaient aussi oublié à quel point les Allemands sont combatifs. Leur jeu efficace et moche, un attelage qui a longtemps fait ses preuves au football, a encore frappé, mais surtout, reconnaissons-le, leur force mentale. Et d'une certaine façon, leur intelligence de jeu a fait le reste. Alors voilà, il va falloir passer par les tirs au but, le summum du suspense, l'épreuve sans pitié. Séville 82 va entrer dans la légende. C'est Giresse qui ouvre le bal. Il s'approche lentement, ne regarde pas Schumacher, tire, c'est bon, 1-0. Giresse aura été parfait de bout en bout dans ce match. Kaltz lui répond, Amoros prend deux pas d'élan, puis marque lui aussi. Breitner égalise, Rocheteau marque le troisième. Puis c'est au tour de Ulrich Tilicke, le libéro du Real Madrid. Incroyable. Jean-Luc Ettori dévie le ballon, frappé mollement à mi-hauteur. Ça y est, la perspective de la finale s'approche. 4-3 pour la France, plus qu'un.
Oui,
oui.
Bravo Ettori. Bravo Ettori.
Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini.
Non, ça n'est pas fini.
Et là, la France a un petit avantage.
Il reste deux coups de pied à donner. Il ne faut pas les manquer.
Didier Six.
Didier Six, le premier. Aïe, 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 aïe.
On apprendra plus tard que Six avait demandé à Michel Platini de tirer le cinquième et dernier pénalty, celui de la gloire, de la délivrance. Platini aurait refusé. Ce cinquième but, c'est effectivement Platini qui le marque. Rummenigge transforme le sien, égalité, on continue jusqu'à ce que mort s'en suive. Maxime Bossis s'avance. Allez Maxime, envoie l'équipe de France en finale, elle le mérite. Horreur, il rate. Il est 23h41, la France tombe au champ d'honneur, comme diraient les militaires. C'est fini. Commence alors l'ère des regrets. Comment un carré magique, comme celui constitué par les Platini, Giresse, Tigana, Genghini, a-t-il pu se faire battre ce jour-là? Parce que ce jour-là, il valait mieux être carré que magique.
Bon, c'est avec tristesse donc que nous quittons ici le stade de Sanchez Pichuan à Séville. Je pense qu'il est inutile qu'on vous rappelle le résultat. Ici, Séville, à vous Paris.
Chaque mythe a un nom en Allemagne, on l'appelle la nuit de Séville, dit Nacht von Sevilla. En France, on dit Séville 82, et tout est dit. 2 ans plus tard, cette même équipe gagnera l'Euro, offrant à la France son premier grand titre international. En ces jours de juin 1984, Michel Platini transformera chaque match en démonstration de football, talent hors norme, efficacité hors norme, et surtout ses buts sur coup franc, magiques, inoubliables. Alors si le trophée brandi au Stade de France en 1998 par Didier Deschamps était l'aboutissement d'un long processus entamé dans le chaudron de Geoffroy Guichard en 76 et consolidé par l'équipe de France Génération Platini, on veut le croire.
Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Séville 82 avec notre invité Éric Nolot. Bonjour.
Bonjour Fabrice, bonjour à tous.
Vous avez suivi ça avec beaucoup de passion, ça vous a évidemment renvoyé à des souvenirs forts. Vous avez donc écrit un livre qui s'appelle « Quand la coupe déborde ». Alors, il s'agit d'un recueil de narrations de plusieurs matchs qui ont marqué l'histoire de la Coupe du Monde. C'est vrai que football et littérature font bon ménage. Je pense à notre confrère Pierre-Louis Basse, qui a écrit un très beau livre, Séville 82, justement. Vous avez écrit un livre sur le football. Je vous demande même pas pourquoi vous l'avez écrit, parce que ça paraît évident, ça fait bon ménage. Quel plaisir vous avez trouvé alors?
Ça fait d'autant plus bon ménage pour moi que j'ai toujours pratiquer le football. J'étais un joueur du dimanche, hein, faut pas que j'exagère ma carrière, mais un joueur du dimanche motivé, deux entraînements par semaine,
ouais, quand même.
Un match le dimanche, une quinzaine de saisons. Voilà, je fais partie de la masse d'où émergent les champions que vous avez évoqués dans votre récit. Et j'ai découvert le football à peu près en même temps que la littérature. Donc j'ai élevé le chat de la littérature et le chien du football en même temps, et du coup ils font bon ménage. Si vous les élevez séparément, ça va moins bien se passer. Et j'avoue que c'est peut-être celui de mes livres qui m'a donné le plus de plaisir à écrire. Il y a un plaisir particulier à écrire sur le football et à célébrer de nouvelles noces, puisqu'il y a eu toute une partie même de ma vie où il faisait pas bon se proclamer fouteux quand on était aussi un peu intello. C'était,
oui,
c'était un peu la honte.
Bien sûr.
Cette époque nous paraît un peu éloignée, maintenant ça fait meilleur ménage.
Alors, vous avez été initié à la Coupe du Monde par celle de 74. Hein. Est-ce que vous estimez qu'il y a une génération, la vôtre, la mienne, qui a été construite d'un point de vue du football et dans sa passion par cette équipe des Pays-Bas et son icône Johan Cruyff?
Bah, ça a été une de nos... Enfin, ça a été une de nos premières icônes, Cruyff et Rocheteau. Et un peu sur le même modèle, c'est que quand vous êtes adolescent et que vous voyez débouler une synthèse du footballeur vedette et de la rockstar,
parce
que Cruyff et Rocheteau avaient des allures de rockstar. Tout d'un coup, c'était plus les types à moustache auxquels on avait un peu de mal à s'identifier. Mais quand à 15-16 ans, vous voyez arriver ces types aux cheveux longs et qui ont dans la vie aussi un peu un comportement de rockstar, les filles se jetaient sur Rocheteau au restaurant. Johan Cruyff avait beaucoup de succès
Johnny
avec
Rep.
Les filles.
Et
Johnny Rep, voilà, exactement, qui lui aussi avait une dégaine de chanteur de rock. On a été construit par ça, par ce football moderne. Et en plus, il se trouve que du côté français, cette génération, pour la première fois, a obtenu des résultats alors qu'on sortait d'une période terrible.
Bien sûr.
Avec les entraîneurs de l'équipe de France, Boulogne et Kovacs, où on perdait tout le temps et on ne se qualifiait
jamais,
ni pour une Coupe d'Europe des Nations, ni pour, a fortiori, pour la Coupe du Monde.
Alors, dans cette Coupe du Monde de 1974, ça fait pas partie des chapitres de votre livre, ça aurait pu être dedans, il y avait ce match RDA-RFA,
oui,
qui était une sorte de métaphore avant l'heure de la réunification allemande, puisqu'on a su après que, ma foi, les Allemands de l'Ouest, qui étaient déjà qualifiés, s'étaient laissés battre, en fait, par les Allemands de l'Est. C'est un certain Sparwasser qui avait marqué le but.
Absolument.
Et alors, il se trouve que ce Sparwasser, on raconte cette anecdote aux auditeurs, elle est un peu fascinante, donc est-allemand, quitte l'Allemagne de l'Est, mais deux mois avant que le mur ne tombe, donc il prend tous les risques, il quitte l'Allemagne de l'Est, puis deux mois après, il aurait pu la quitter tranquillement, voilà pour l'anecdote autour de ce Sparwasser. Vous pensez que les enjeux du football, on va revenir à un Séville 82, mais vous pensez que les enjeux du football dépassent les enjeux sportifs?
Oui, de très loin, parce que c'est un sport qui intéresse tellement de gens, des milliards de personnes autour de la planète, que le football est toujours beaucoup plus que du football. Ben, vous l'avez résumé avec cette affaire RDA-RFA. Au fond, il y a une charge symbolique autour du football. C'est rare qu'un footballeur se laisse battre, quand même. Quand on entre sur un terrain, c'est pour gagner. Mais au nom d'intérêts politiques, eh bien, voilà, le football peut devenir politique. Il y a une Coupe du Monde qui a été très, très politique, c'est celle en
78.
Argentine.
Ah oui.
78, parce que la junte militaire a tout fait. Mais quand on dit tout, il faut prendre l'adverbe dans son sens le plus fort. Pour que l'Argentine gagne, c'est même passé par un achat d'un match, celui contre le Pérou.
6-0.
6-0, 4-0 suffisait, mais ils en ont rajouté un petit peu. Et il faut quand même ajouter ce détail qui est assez terrible, assez tragique, assez sordide même. C'est qu'il y a eu un accord entre junte militaire argentine et junte militaire péruvienne.
Sur la dette.
Sur la dette. Donc il y avait de l'argent en jeu. Ils ont aussi acheté quelques joueurs. Mais les Argentins avaient accepté de prendre quelques prisonniers politiques péruviens pour les balancer du haut d'un avion, comme ils le faisaient dans la mer, pour les noyer, ils le faisaient à leurs propres opposants. La diplomatie française a récupéré ces malheureux et leur a évité ce sort funeste. Mais vous voyez que le football, ça peut aller très très loin, ça peut aller jusqu'à des affaires de vie ou de mort.
Il s'appelle aussi dans la caricature, souvenez-vous de la France Black Bomber de 98, ce qui était vrai sur le terrain, mais c'était pas vrai dans la société, on nous a bien enfumé avec ça aussi.
Oui, il y a de l'enfumage pour rester dans un registre correct, parce que c'est un concept médiatique, c'est un concept marketing. En revanche, ce qu'on observait quand même dans tout le pays, c'est que la France entière et les moments d'union nationale en France ces derniers temps sont pas si fréquents, respiraient au rythme du mondial.
Bien sûr.
Il y avait inspiration, expiration, il y avait une sorte de suspens entre deux matchs. Tout le monde attendait le match suivant. Ce qui nous semblait complètement improbable se précisait de match en match. On va peut-être aller jusqu'au bout. Et c'est peut-être une des dernières fois, avec peut-être Charlie, les manifestations de soutien à Charlie, qu'on a senti une nation unie, alors que nous sommes plutôt un pays où la zizanie règne depuis quelque temps.
Oui, gaulois et néo-gaulois.
Hélas, nous le restons pour le meilleur, mais parfois pour le pire.
Alors, on revient à ce match de 1982, cette demi-finale entre la France et l'Allemagne à Séville. Vous dites dans votre livre, vous voyez ça, vous, comme la césure entre le football d'hier et le football d'aujourd'hui. Pourquoi ?
D'abord, c'est un match du monde d'avant, puisqu'on parle encore
ça,
de
le monde d'avant.
France-RFA. Il y a encore deux Allemagnes.
Bien sûr.
Et puis, c'est une époque où, même si c'est un match de très grande qualité, on voit quand même que le football va beaucoup plus vite aujourd'hui. C'est quand même un match du monde ancien. Et puis, c'est surtout un monde où le football business ne règne pas en roi comme il est actuellement. Aujourd'hui, il y a une dérégulation totale et un afflux de capitaux qui rendent, par exemple, le montant des transferts de Platini, la superstar de l'époque, ridicule. Platini a été transféré pour des montants ridicules par rapport à un joueur moyen d'aujourd'hui. Donc c'est quand même une autre conception du football. Et puis c'est un match du monde d'avant, parce que pour moi, c'est le match le plus proche de la tragédie grecque. Je crois que jamais, autant qu'en ce 8 juillet 82, le football ne s'est autant rapproché de la tragédie grecque. Et dans l'archive que vous avez passée, la première phrase que prononce Jean-Michel Larquet, c'est « J'espère que ce n'est pas un signe du destin ». C'est-à-dire qu'il a prononcé le mot-clé de la tragédie grecque, le destin. Ça a été un match du destin, par le retournement de situation au score, par l'attentat de Schumacher. Vous avez remarqué qu'on dit Schumacher pour le vilain Schumacher et Schumacher pour le gentil Schumacher, le pilote automobile.
C'est vrai.
Et la tragédie a été dans le score, dans le fait que les dieux ont d'abord pris parti pour les Français, puis pour les Allemands, et puis par cet attentat qui a été commis à la 57e minute.
Vous dites aussi que c'est le dernier acte de la haine franco-allemande.
Oui, parce que ça a été très loin. En fait, la crise a été jusqu'au sommet. La germanophobie, on avait vraiment l'impression qu'une troisième guerre mondiale avait commencé. La germanophobie mais connaissait des pics de délire en France, au point que Helmut Kohl s'est fendu d'un télégramme à François Mitterrand, en se référant à la tragédie en grec, en disant « ce soir, ou plutôt il y a deux jours, les dieux qui, vous le savez, décident du sort des rencontres.
Hein »
oui. Donc il s'est référé à la tragédie grecque. Et effectivement, après, je trouve que même si les France-Allemagne ne sont jamais des matchs comme les autres, ça s'est un peu apaisé. Celui de 86 était apaisé. Et vous voyez, le dernier match de l'Euro, on peut, même si c'était quelque chose d'affronter l'Allemagne, il n'y a pas eu ce délire anti-Bosch. Vous voyez, on ne disait plus Bosch.
Mais les Allemands ils ont mis du leur aussi. Ils ont changé. L'équipe d'Allemagne était vraiment infréquentable jusque dans les années 80.
Oui.
Elle a fait des coups pendables aussi. Absolument. 54, notamment, où elle casse les Hongrois, qui étaient magnifiques, qui étaient un peu comme les Hollandais de 74. Donc c'est l'équipe qu'on aime détester. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas.
Non.
D'abord, ils jouent plutôt bien, pas tellement en ce moment-là, ça part difficilement. Mais c'est une équipe sympathique comme les autres, maintenant.
Mais parce qu'ils ont le bon goût de perdre, en plus, comme ils viennent de le faire contre le Mexique. Nous, on aime bien quand ils perdent.
Ça les humanise.
Ça nous les rend plus sympathiques. Cela dit, quand vous regardez l'histoire des Coupes du Monde, l'Allemagne se confond avec le pire du football, avec le dopage des 54.
Le pire du football, absolument.
Avec
la brutalité.
La brutalité, il y a toute chance de croire qu'ils ont blessé Puskás, donc le joueur vedette hongrois de 54 volontairement.
Fritz Walter, le capitaine à l'époque.
Gengini est sorti, pour moi c'est le premier grain de sable de France RFA de Séville, c'est quand Gengini sort. Et il y a une quand même culture de la brutalité, de cibler les joueurs vedettes adverses, qui est quand même une constante du football allemand. Fair play n'est pas un mot allemand, vous voyez.
Mais pas aujourd'hui quand même.
Non, ça a changé, ça a changé.
Est-ce que vous croyez à l'idée, au concept de défaite magnifique? Est-ce qu'on peut être magnifique dans la défaite?
Et j'aimerais pouvoir vous répondre oui, ce serait très noble de ma part, mais je suis très très peu sensible à l'héroïsme de la défaite. C'est-à-dire, on était les meilleurs, mais on a perdu. Je dois vous dire que rédiger ce chapitre sur France RFA de Séville a été une douleur pour moi. Malgré la qualité de votre récit et le plaisir que j'ai à être ici, entendre ce récit est une douleur pour moi, et je me souviens encore du chagrin monumental que j'ai éprouvé, que nous avons été des millions à éprouver. Nous sommes tombés dans une forme de dépression, de deuil, de chagrin national collectif.
Je confirme.
Parce que ça ne s'arrêtera jamais.
Ouais.
Cette douleur ne s'effacera jamais parce que, d'abord, c'était injuste, et ensuite, on a l'impression que cette génération formidable, quand on énumère les joueurs, on hallucine.
Ouais.
Le nombre de talents sur le terrain a loupé son destin. N'a jamais gagné la Coupe du Monde qui lui était promise, et que la génération de 98, elle va gagner en jouant certes moins bien, mais en jouant. Je préférerais toujours le 3-0 du Stade de France au 3-partout de Séville.
En tout cas, comme je le disais en intro de l'émission, regrets éternels.
Toujours.
Éternels. Alors, on va écouter quelques témoignages saisissants. Le premier de Marius Trésor, joint il y a 4 ans, lors de la première diffusion de cette émission 2014, par notre reporter, Gaylor Van Wimmer. J'écoutais Marius Trésor juste après le match.
Allô?
Marius Trésor?
Oui.
Vous êtes un ancien international français, un ancien joueur de football. Quel souvenir, quelle image vous gardez de ce match?
Oh, très mauvais souvenir. Quand le match s'est terminé, bon, déjà dans les vestiaires, tout le monde pleurait parce que, vous savez, une Coupe du Monde, ça se passe tous les 4 ans. Moi, personnellement, je savais que c'était ma dernière apparition à ce niveau-là. J'aurais préféré ne pas marquer le but que j'ai marqué en prolongation et que l'arbitre siffle le pénalty qui s'imposait sur la faute de Schumacher sur Patrick. Il aurait sifflé. J'aurais pas eu à marquer. C'est ça qui me fait le plus mal. Le plus cruel dans tout ça, c'est quand nous sommes arrivés à l'aéroport, nous on partait sur Alicante et l'équipe d'Allemagne partait sur Madrid, et de voir l'arbitre du match, M. Korver, parler avec les Allemands, rigoler avec eux.
Après le match
Après le match à l'aéroport, c'est quelque chose qui s'est passé et il a fallu qu'on retienne Jean Tigana, qui n'est pas épais, mais il voulait aller lui dire deux mots. Mais je dirais aussi que pour les instances du football, et on voit ce qui se passe maintenant avec l'attribution soit au Qatar, soit à la Russie, je pense qu'il n'y a que l'argent qui compte. À cette époque-là, l'équipe de France n'était pas une sommité du football. Donc une finale Allemagne-Italie était, je pense, pour eux beaucoup plus valorisante que s'il y avait eu l'équipe de France.
Donc là, vous dites que la France a été lésée du fait de son statut.
Ah oui, il y a un peu de ça. Et en plus, je dirais aussi, l'équipe de France, pour aller à la Coupe du Monde 82, avait éliminé quelle équipe ? Avait éliminé la Hollande. Et qui ont nommé pour arbitrer ce match-là ? Un arbitre hollandais. Quand on regarde le parcours de cette équipe d'Allemagne qui arrive en finale, tu t'aperçois qu'il y a eu des choses pas très nettes. Cet arrangement avec les Autrichiens qui permet aux deux équipes de se qualifier et d'éliminer l'Algérie. Donc je pense qu'il y a cette influence néfaste de la part des dirigeants de la FIFA.
C'est toujours le cas à l'heure actuelle ?
Mais bien sûr. Vous ne pouvez pas me dire que le Qatar, qui n'a pas une équipe de football représentative, soit celle qui va organiser la prochaine Coupe du Monde.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore, Marius Trésor, le sentiment d'une injustice, de vous être fait voler cette victoire ?
Mais ça s'en ira jamais. Il me reste une cruelle frustration. Et je ne sais pas s'il est toujours vivant ou M. Korver, mais j'aimerais ne pas le rencontrer.
L'arbitre, vous lui en voulez toujours ?
Ah ouais.
Marius Trésor, merci infiniment. Au revoir.
Au revoir.
C'est fort, hein ?
C'est très fort, parce que c'était un joueur remarquable sur le terrain, un des plus grands joueurs de l'équipe de France, mais alors il ne pratique pas la langue de bois hors du terrain. Là, tout ce qu'il dit, en fait, est frappé au coin du bon sens, mais avec une franchise. Écoutez, c'est une expérience que je fais toujours à regret, mais regardez à nouveau le match, il se passe des choses bizarres. Et M. Korver a un arbitrage quand même bizarre, et son comportement à l'aéroport, l'anecdote avec Tigana, il voulait plus que lui dire deux mots, à vrai dire. Je pense qu'il voulait lui mettre sa main dans la gueule, pour parler un peu vulgairement. Franchement, ça se fait pas. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas dans ce match. Et ça avive nos regrets parce qu'on veut bien perdre à la régulière. Mais là, on a l'impression, vous savez, des dieux facétieux qui tout d'un coup décident que les vents seraient défavorables à Ulysse alors que jusque-là, ils étaient favorables. Ils décident que, voilà. Et bon, ben là, le dieu au football, il est en noir. Il s'appelle Charles Korver. Voilà. Ouais.
Et Marius Trésor, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'image d'un homme au parler vrai comme ça. Vous vous rendez compte, cette interview remonte à 4 ans. Ça veut dire que de 81 à 2014, ça fait combien ? Ça fait 33 ans, c'est ça ? 33 ans après, la douleur est toujours aussi vive. C'est complètement dingue.
Mais moi, j'ai eu la chance de parler avec Hidalgo, qui m'a décrit la vestiaire. Oui.
Et je vous arrête, parce que on va l'écouter, chez Hidalgo. Ce qu'il vous a dit... Mais nous l'a dit aussi.
Parfait.
Et on l'entend, on l'écoute maintenant.
Allô ?
Bonjour Michel Hidalgo ?
Oui.
Vous étiez le sélectionneur de l'équipe de France en 1982, la Coupe du Monde espagnole. Quel est votre souvenir de ce match, le 8 juillet 82, en demi-finale contre l'Allemagne ?
Séville 82 a été un match où tous les éléments de la tragédie, on pourrait presque dire, étaient réunis. J'ai jamais vu après un match un vestiaire de joueurs internationaux comme l'équipe de France de cette époque. C'était des hommes avant le match et j'avais des enfants après le match. C'était les pleurs, c'était l'incompréhension, c'était tout contre l'arbitre. Il y avait tout ça. On avait un avion à prendre qu'on a retardé d'une heure parce que quelques joueurs n'étaient même pas encore déshabillés une heure après. Il y avait une colère et ça a été une nuit dantesque. On en voulait à tout le monde et on en voulait surtout à l'arbitre. Je pense qu'aucun joueur, quel qu'il soit, ne mérite ce qu'on a subi ce jour-là. c'était la fin de carrière d'un Marius Trésor qui était un type extraordinaire et qui ne méritait pas une aussi triste épilogue. Je pense toujours à lui, je pense à ses pleurs dans le vestiaire. J'ai vu un Platini en colère au micro de toutes les radios. Il y avait une forme d'injustice que les joueurs ne comprenaient pas.
Michel Hidalgo, aujourd'hui, est-ce que vous gardez encore un traumatisme de ce match ou est-ce que ce traumatisme a été effacé ?
Effacé complètement, non. Mais on oubliait un petit peu que 2 ans plus tard, on a été champion d'Europe. C'était le premier titre du football français. C'était quand même quelque chose d'important, surtout qu'il avait lieu en France. Mais on n'a pas réussi à éteindre tout ce qu'on avait subi dans cette demi-finale de Coupe du Monde.
C'est-à-dire que même la victoire de 84 n'efface pas totalement le traumatisme de 82.
Complètement ce qu'on avait subi en 82.
Est-ce que vous avez revu ce match depuis ?
Non, j'ai jamais voulu le revoir. C'était un grand souvenir et en même temps un mauvais souvenir.
Merci, je vous souhaite une bonne journée.
C'est ce qu'il vous disait aussi, Michel Hidalgo ?
Ça, il nous a décrit le vestiaire, c'était Pompéi après l'éruption, quoi. C'est-à-dire des joueurs pétrifiés, perdus, mais hagards, quoi. C'est-à-dire que le rêve est passé, et des gens qu'on a privés de leur destin. C'est vous avez enlevé le jouet d'un enfant, voilà. Il s'apprêtait à en profiter, vous lui avez enlevé au dernier instant. Et en effet, il n'y avait pas de revanche possible pour certains. Trésor ne reviendrait pas, ne referait pas une Coupe du Monde. Non, je crois qu'il n'y a pas eu plus cruel dans l'histoire de l'équipe de France que ce 8 juillet 82, et ça reste un traumatisme, vous voyez, ineffaçable pour les acteurs, mais c'est presque un mot de passe pour les Français. Vous dites Séville 82, la conversation débute, tout le monde va vous parler de Schumacher, tout le monde va vous parler du tir sur la barre d'Amoros, tout le monde va... Voilà, c'est le film national. C'est peut-être le récit, on parle beaucoup de roman national, mais peut-être le roman national qui nous unit tous, ce France RFA de Séville. Le football est important, mais ce France RFA occupe une place particulière au sein du football.
Et vous savez que les Allemands ont le même syndrome alors, par rapport aux Italiens, et notamment eux, leur Séville 82, c'est la demi-finale en 1970 contre l'Italie. On dit d'ailleurs que c'est le match du siècle. Moi, j'ai pas vu, j'étais trop jeune pour le coup, vous non plus, j'imagine.
Non.
4-3 pour l'Italie, Beckenbauer qui joue avec un bras dans le plâtre, et les Italiens totalement héroïques et qui vont en finale évidemment perdre devant le Brésil intouchable de Pelé, mais pour le récit national allemand et celui de la Mannschaft, il y a un Séville 82, même s'il n'y a pas eu d'exaction de l'arbitre, qui était battu à la régulière, mais pour eux ça a été absolument terrible. Alors le crépuscule de cette équipe Platini et consorts, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, c'est la demi-finale remake France-Allemagne en 1986, sauf que là, ça se passe normalement. Alain Giresse, qui était notre invité lors de la première diffusion de cette émission, nous avait confié que cette équipe-là, selon lui, était plus forte que celle de 82-84, avec l'apport de Fernandez, de quelques-uns. Mais ils ont perdu parce qu'ils étaient fatigués. Voilà, tout simplement fatigués. Parfois, les raisons d'une défaite sont toutes simples. Fatigué.
Oui, mais dans le déroulement du match, il y a, dans le 86, là, l'autre demi-finale, il y avait quelque chose d'inéluctable. 1-0, 2-0, et on voyait bien que les Français pouvaient jouer 5 heures, en effet, peut-être en raison de la fatigue, si Giresse le dit, c'est vrai, immense.
Et Platini était blessé, diminué en tout cas.
Enfin,
diminué.
Il y avait comme une issue logique, parce que rien dans le match ne pouvait laisser prévoir qu'on allait renverser la situation. Tandis qu'à 3-1, Thierry Roland dit « on est en finale ». C'est-à-dire que là, nous, on avait le destin avait parlé, c'était fini. C'était la meilleure équipe qui avait gagné. En plus, on était en prolongation, donc tout le monde en avait plein les bottes et les Français se montraient les plus vaillants. Et puis, il y a eu, en effet, le destin, peut-être un peu, pour reprendre une notion grecque, l'hubris, peut-être un peu d'hubris grec aussi. Les Français ont dit, on va pas gagner 3-1, on va gagner 6-1, on va leur mettre une déculottée. Et ça s'est retourné contre nous.
Le mieux est l'ennemi du bien.
Hein, en l'occurrence, oui, je pense que les Italiens n'auraient pas commis la même erreur, vous voyez, pour reprendre un football qui vous est cher.
Oui.
Je pense que les Italiens ont un art de fermer la boutique à 3-1 qui fait qu'on ne revient pas quand il reste quelques minutes.
Alors, donc cette on peut dire que cette équipe s'éteint, enfin son épopée arrive à terme en 86. Après, elle laisse la place à une génération moins brillante, celle de Ginola, Cantona, éliminée de la Coupe du Monde aux États-Unis par la Bulgarie. Dites-moi, drame intime chez les Nolo, ce jour-là?
Oui, drame intime parce que mon épouse est bulgare et quand Kostadinov a marqué à la dernière seconde, tandis que tout le pays plongeait dans l'affliction. Moi, je plongeais dans une double affliction, puisque quand vous avez une épouse qui fait toutes les danses folkloriques bulgares dans le salon, c'est pas ça qui va vous remonter le moral, vous voyez. Donc voilà. Donc ça reste un traumatisme, mais plus intime. Mais enfin, un coup de canon aussi, parce que la dernière seconde, voilà.
Alors, entre-temps, faut pas l'oublier, on l'a évoqué aussi, il y a eu donc le triomphe de l'Euro 84. Écoutez, les dernières secondes de cette finale de l'Euro, c'était contre l'Espagne. Jacques Vendroux, de France Inter, s'égosille pour la bonne cause.
À notre chronomètre, le match est terminé depuis 17 secondes. L'équipe de France va être championne d'Europe de football pour la première fois de son histoire. Une équipe de France qui se dégage par l'intermédiaire de Joël Batz, qui dégage directement sur Bruno Bellone. Bellone qui va essayer de prendre de vitesse Callego. Intervention d'Arconada. L'arbitre regarde son chronomètre. C'est fini, monsieur l'arbitre. Le match est terminé depuis exactement 40 secondes. L'équipe de France, championne d'Europe de football. Et les Français qui continuent à attaquer par l'intermédiaire de Tigana, qui donne à Bellone. Bellone qui va marquer le deuxième but de l'équipe de France. Voilà, Bellone qui marque le deuxième but de l'équipe de France. Le match à notre chronomètre est terminé. L'équipe de France qui mène 2-0. Il reste quelques secondes à jouer à notre chronomètre. Le match est terminé. L'équipe de France, pour la première fois de son histoire, championne d'Europe de football.
Voilà, c'était beau ça. Quel souvenir vous en gardez?
Oui, un grand souvenir.
Très net, très précis.
Oui, très précis, très net. Le deuxième but de Bellone et puis la fameuse Arconada là, qu'il laisse passer sous son ventre, un coup franc de Platini.
Le gardien espagnol.
Mais j'ai pas du tout le souvenir, et j'ai sans doute jamais éprouvé, d'une réparation de 82. On était très contents, premier titre, voilà.
Oui, mais ça n'effaçait pas.
Non,
on
ça,
est bien
ça n'effaçait pas. Et en plus, il y avait autre chose, c'est que ce championnat d'Europe des Nations, contrairement à ce qui s'était passé en 82, c'était un Platini show. C'était beaucoup moins collectif. Cette Platini tenait l'équipe, mais à bout de bras, marquait. Il a terminé évidemment meilleur buteur. Il a 9 buts, quelque chose.
Meilleur
comme
buteur,
ça.
Ballon d'or, meilleur joueur du monde. Ouais. En plus, il était à la Juve à l'époque où il venait d'arriver. Non, il était à la Juve déjà.
Oui, oui.
Donc en 85, il gagne la Ligue des Champions, qui s'appelait la Coupe d'Europe des clubs champions
mais
à l'époque.
Oui.
Donc voilà, c'était
luxe. Donc il
n'y
avait
absolu,
pas ce collectif.
Non, c'est vrai.
La 82, ça aurait été quand même la consécration d'une génération extraordinaire. Que là, je le répète, quand vous énumérez les noms, vous êtes sidérés par le niveau de l'équipe de France. Et je cite cette anecdote, justement en rapport avec la Bulgarie, où un chauffeur bulgare à Sofia me dit « Ah, t'es français, on commence à discuter, comment ça se fait que tu parles bulgare, etc. etc. Ah, le football français, moi ça m'intéresse. » Et qui me cite ? Le carré magique de 82.
Djengini Tigana Gires Platini.
Voilà.
Ben oui.
36 ans après, ce chauffeur de taxi, il ne va pas vous parler de Zidane, il ne va pas vous parler même de très grands joueurs qui se sont succédés, il vous parle de ce carré magique. C'est une équipe, notamment son milieu de terrain, qui est entrée dans l'histoire du football jusque dans les taxis bulgares.
Et on l'a vu d'ailleurs lors de ce match absolument somptueux d'un point de vue technique, en 1986, le quart de finale contre le Brésil.
2006.
Non, 86. 2006, c'était beau aussi, mais 86 aussi,
quart de finale contre le Brésil.
Parce qu'on parle de cette équipe-là,
où la balle,
je crois, sort 3 fois en touche, pas plus. Tellement brésiliens et français sont absolument somptueux. Et c'est une merveille de football.
Bah, ça a été extraordinaire. Après, je pense que c'était bien payé la victoire française quand même. Je pense que les Brésiliens, ce jour-là, étaient supérieurs en 86.
C'était l'équipe en plus de Zico, Socrates et Falcao. Très belle équipe.
Platini rate le tir au but, Zico rate le tir au but. Quel match.
Ouais, quel match, effectivement. Alors l'équipe de France d'aujourd'hui, 35 ans après, quel est votre regard sur l'équipe de France qui joue cette Coupe du Monde et qui était bien poussive, comme d'autres favoris d'ailleurs, hein, lors de son match contre l'Australie, c'est
ça ? Mais plus que d'autres favoris, là c'est entré en matière plus que difficile, le niveau de jeu était assez pathétique par moment. Bon, on sait que les entrées en matière de Coupe du Monde, voilà, ne préjuge pas de ce qui peut se passer, ça peut continuer mal de se passer, ça peut au contraire très très bien tourner et même se terminer, pourquoi pas, par une victoire. Je crois que c'est de loin le début de Coupe du Monde qui donne le plus d'incertitude sur le résultat final. Mais là aussi, très belle génération, tout va se jouer sur l'alchimie. Est-ce qu'ils vont continuer à être 1+1+1+1 ou commencer à jouer à 11 ? S'ils jouent à 11, avec le talent individuel qu'il y a sur le terrain, on peut faire quelque chose. Là, j'avoue que les deux derniers matchs, le dernier match de préparation et le premier de la Coupe du Monde...
Oui, 0-0 devant les États-Unis, c'est ça ?
Un partout, en tout cas, tout à fait. Et puis, victoire extrêmement tirée par les cheveux. Pour l'instant, il y a plus, voilà, il y a plus matière à désespoir qu'à espoir. Mais bon, moi, je reste chauvin, comme je vous l'ai dit, donc jusqu'au bout.
Éric Nolot va donner un petit peu l'eau à la bouche de vos futurs lecteurs en citant quelques chapitres de ce livre qui s'appelle « Quand la Coupe déborde, Nolot refait le match ». Alors, Hongrie et RFA, on en avait parlé, hein, de la Coupe du Monde 54. 19 juillet 1966, Italie, Corée du Nord. Dites donc, vous écrivez sur l'Italie quand ça va pas, vous?
C'était bah oui, parce que c'est un hommage que je rends à l'Italie, puisque quand elle est battue, c'est un événement, vous voyez.
Donc c'est vrai, voilà. D'accord.
Mais c'est mon chapitre préféré, bon, match extraordinaire.
Bon. Bien, Angleterre-RFA, alors probablement les Anglais ont peut-être volé le but de la finale contre les RFA.
On peut le dire même.
Argentine-Pays-Bas, c'était cette Coupe du Monde assez sordide, même si l'équipe d'Argentine était brillante.
Absolument.
Avec Kempes et
Absolument.
Consort, c'était belle.
Oui,
hein,
oui, bien sûr.
Mais bon, l'entourage était épouvantable. Autriche-RFA, le match de la honte.
Match arrangé, dont voilà. Parle Trésor hein, dans votre son.
Oui, absolument. France RFA, on vient d'en parler pendant une heure. Angleterre, Argentine, c'est la main de Dieu, ça, non?
C'est la main de Dieu plus le but du siècle.
Plus le, c'est-à-dire le but de quand Maradona marque, ouais, tout seul, il prend la balle, voilà, devant son gardien, quasiment, il l'emmène, voilà, jusque dans les buts.
Il dribble après avoir commis la crapulerie du siècle, donc le but de la main. Donc lui, vraiment, il a le sens du spectacle, quoi. La crapulerie du siècle et le but du siècle.
Il nous reste 15 secondes. Pourquoi me dites-vous que le chapitre Italie, Corée du Nord, c'est votre préféré?
Parce que j'adore cette histoire où toute une ville ouvrière anglaise, Middlesbrough en l'occurrence, prend fait et cause pour les Coréens du Nord sur une base sociale. Ce sont des prolos comme nous, c'est ceux-là qu'on va soutenir. C'est plus possible maintenant, il n'y a plus de prolos dans le foot.
Bon, dernière chose, une Coupe du Monde sans l'Italie, c'est un peu une faute de goût quand même.
En tout cas, il nous manque.
Ah, merci, ça dit bien. Merci Éric Nolot, au revoir.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Coupe du Monde, Séville 82, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.